KPMG, Fréquence Banque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mardi 26 mars 2024 avec trois associés de KPMG. Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque, Faisal El-Belrami, spécialiste des enjeux de cybersécurité dans le secteur financier, et Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. Aujourd'hui, deux titres à la une de l'actualité bancaire, la publication par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ses priorités de supervision pour l'année 2024 et le lancement de plusieurs consultations par le BA en lien avec sa feuille de route sur le paquet bancaire applicable au 1er janvier 2025. Après ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire que nous ferons avec Arnaud Bourdeil, j'aurai le plaisir d'interviewer Faisal El-Belrami sur le premier exercice de stress test cyber qu'a lancé la BCE le 3 janvier 2024. Enfin, nous clôturerons l'émission avec notre traditionnelle chronique verte présentée par Sylvie Miette.
KPMG, Fréquence Banque.
Débutons le tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud.
Bonjour Kenza, bonjour à tous.
On commence tout de suite par une actualité franco-française. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié le 15 janvier dernier ses priorités de supervision prudentielle pour l'année 2024. Bien que les banques se soient montrées résilientes en 2023 face aux épisodes de crise bancaire, aux différents chocs macroéconomiques et géopolitiques, la CPR souhaite maintenir cette solidité avec une vigilance renforcée sur l'ensemble des risques pesant sur le système financier. Au-delà de cet aspect conjoncturel, la CPR a pris en compte dans sa feuille de route des dimensions liées aux transformations structurelles que connaît le secteur financier, notamment la gestion des risques cyber et climatique.
Oui, Kenza. La CPR a d'ailleurs élaboré sa feuille de route 2024 à partir d'une cartographie des risques du système financier français établie conjointement avec la Banque de France. Cette feuille de route intègre à la fois les priorités du contrôle du mécanisme de supervision unique, du Conseil de résolution unique, de l'Autorité bancaire européenne et de l'Agence européenne des assurances et des pensions professionnelles.
C'est un programme de travail très riche et très complet dans lequel la CPR a d'abord défini quatre axes stratégiques pour ensuite déterminer ses priorités.
Effectivement, la CPR a défini quatre axes de travail stratégiques qui sont maintenir et renforcer la sécurité et la solidité des secteurs de la banque et de l'assurance face aux risques macroéconomiques, financiers et géopolitiques, remédier aux vulnérabilités structurelles et être proactif face aux nouveaux risques, identifier et remédier aux risques d'inconduite selon les termes utilisés par la CPR elle-même, tout en maintenant des dispositifs de lutte anti-blanchiment à un niveau élevé de qualité, et enfin, poursuivre la modernisation de la CPR, accroître son efficacité et aussi contribuer au plan stratégique de la Banque de France.
Pour répondre à ces quatre axes stratégiques, la CPR s'est fixé trois priorités principales pour 2024, essentiellement tournées vers la résolution, avec une première priorité qui consiste à s'inscrire dans la stratégie 2028 du Conseil de résolution unique.
Face aux risques liés au taux d'intérêt, aux tensions inflationnistes et à la volatilité du prix des actifs immobiliers et financiers, la CPR sera en effet attentive à la gestion ALM des banques. Elle suivra les impacts de ces risques sur les spécificités du modèle français, je pense ici notamment à l'épargne réglementée ou encore au crédit immobilier à taux fixe. La CPR annonce également qu'elle suivra de très près l'application des normes du Haut Conseil de stabilité financière sur les conditions d'octroi des crédits immobiliers que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter sur ces ondes.
Et en matière de liquidité, Arnaud ?
Alors justement, dans le contexte du remboursement des TLTRO, la CPR va regarder de près le risque de liquidité et de refinancement des établissements bancaires et s'intéressera à la diversification et à la stabilité de leurs dépôts.
Deuxième priorité de la CPR, qui concerne cette fois les sociétés d'assurance et qui touche donc mécaniquement nos banques assureurs français. Il s'agit du renforcement de l'expertise en matière de résolution assurance.
En effet, dans le cadre de sa compétence en matière de résolution assurance, la CPR actualisera les premiers plans préventifs de résolution adoptés fin 2022 et début 2023. L'autorité poursuivra également le développement de ses méthodes de mise en œuvre des outils de résolution en approfondissant les questions de tests d'intérêt public et de choix du ou des points d'entrée pour la stratégie de résolution. Dans le prolongement de ces travaux, la CPR réalisera les analyses horizontales des plans préventifs de rétablissement transmis par les groupes d'assurance sur les parties relatives aux fonctions critiques, à leur séparabilité et aux différentes interconnexions afin que l'autorité identifie les bonnes pratiques destinées aux groupes d'assurance.
On a parlé de trois priorités pour 2024. La dernière priorité porte sur la poursuite de la stratégie d'influence, pour reprendre les termes mêmes de la CPR. De quoi s'agit-il, Arnaud ?
Dans le cadre de cette dernière priorité, la CPR souhaite poursuivre, en les renforçant, ses analyses et ses interactions avec les banques via la publication de documents de réflexion et la réalisation d'analyses horizontales permettant de fournir aux banques des états comparatifs de leur degré de préparation à la résolution. La CPR annonce qu'elle va analyser les plans de réorganisation des activités post-résolution préparés par les banques. Elle va également réaliser des analyses des travaux engagés en matière de séparabilité.
Tout naturellement, ces priorités de la CPR et les grands axes stratégiques qu'elle a définis se rapprochent des priorités de supervision de la Banque Centrale Européenne qu'Ulrich de Prins a présentées sur nos ondes le 25 janvier dernier. Passons maintenant à l'actualité européenne, avec plusieurs consultations lancées par l'EBA sur le risque opérationnel et les engagements hors bilan. Ces consultations font écho à la mise en œuvre de Bâle 4 au 1er janvier 2025 et au mandat en cours dans le cadre de la feuille de route CRR3-CRD6 de l'EBA. L'autorité bancaire européenne a donc lancé le 20 février 2024 une série de 5 consultations sur le risque opérationnel. Ces consultations étaient très attendues par les banques qui travaillent depuis décembre dernier avec le lancement des premières consultations sur les états COREP et pilier 3. Ces nouvelles consultations sur le risque opérationnel complètent donc ce premier volet publié en décembre, Arnaud.
Oui, mais pas seulement. Bien sûr, les mandats donnés à l'EBA portent sur les modèles d'État à publier au marché et à transmettre aux superviseurs. Et les banques ont bien vu que l'EBA avait mis en consultation, dans un premier ITS, 4 nouveaux États pilier 3 et dans un deuxième ITS, 4 nouveaux États COREP et 2 États COREP modifiés. Pour autant, l'EBA précise également, dans les consultations du 20 février dernier, les composantes de l'indicateur d'activité, notre BI, dans un RTS dédié, avec notamment la prise en compte des normes IFRS 9 et IFRS 16 dans son calcul. Cette norme technique donne la possibilité aux banques de définir la frontière entre le trading book et le banking book sur un plan prudentiel et non plus comptable sous certaines conditions.
L'EBA a également mis en consultation un RTS sur des ajustements à apporter au BI en cas de changement de périmètre.
Avec ce deuxième projet de RTS, l'EBA explique qu'il faut intégrer dans le calcul du BI les éléments liés aux activités et aux entités fusionnées ou acquises, avec l'obligation pour l'établissement d'établir les états financiers pro forma révisés, en prenant l'hypothèse que l'entité aurait fait partie du groupe les 3 exercices précédents, dans la mesure où le BI se calcule sur une moyenne de 3 années. En cas de cession, un établissement peut exclure l'entité cédée du calcul de son BI, mais il doit pour cela obtenir l'autorisation de son autorité compétente, qui prendra en compte par exemple les pertes opérationnelles de l'entité cédée, l'existence d'un engagement de garantie ou de passif futur, ou encore une éventuelle exposition supplémentaire significative au risque opérationnel en lien avec cette cession, etc.
On comprend le sens de ces ajustements, car ces éléments de changement de périmètre impacte le profil de risque de l'établissement. Mais existe-t-il des seuils de matérialité ?
Non, aucun seuil de matérialité n'est précisé dans les consultations en cours, mais l'EBA se dit ouverte à la mise en place d'un seuil en cas d'opération multiple pour alléger la charge de travail des établissements.
On encourage donc les établissements à bien aborder ce point dans leur réponse à ces consultations via la Fédération des banques françaises. Vous avez présenté 4 consultations sur les 5. Sur quoi porte la dernière ?
Pour faciliter le calcul du BI, l'EBA a mis en consultation une cartographie reliant les éléments de calcul du BI avec les états FINREP. Le choix du reporting FINREP a été motivé par la prise en compte dans le développement des modèles FINREP des normes IFRS et des normes nationales.
Ce mapping a été accueilli favorablement par les établissements et devrait faciliter le calcul. Ces consultations sont ouvertes jusqu'au 30 avril pour les 2 ITS portant sur les états déclaratifs, COREP et pilier 3, et jusqu'au 21 mai pour les 3 RTS-ITS relatifs à l'indicateur d'activité, le fameux BI. Toujours en lien avec sa feuille de route CRR3-CRD6, le BA a lancé le 4 mars dernier une consultation sur un projet de RTS précisant le calcul du risque de crédit en approche standard des éléments de hors-bilan. Ce projet de normes techniques précise les critères que les établissements doivent prendre en compte pour apprécier les facteurs de conversion des éléments de hors-bilan lorsque ce n'est pas explicitement spécifié dans l'annexe 1 du règlement CRR3.
Oui, mais on rappelle également à nos auditeurs que le règlement CRR3 introduit deux nouveaux facteurs de conversion de 10% et de 40% pour rendre plus sensible au risque le traitement des éléments de hors-bilan qui doivent désormais être répartis dans 5 classes de risque, avec chacune son propre facteur de conversion, respectivement 10, 20, 40, 50 et 100%.
On vise bien ici les engagements de hors-bilan donnés.
Oui, sachant que le règlement CRR3 redéfinit la notion même des engagements au sens prudentiel comme étant la combinaison d'un accord juridiquement contraignant d'une part et d'une acceptation de la part du client d'autre part. Le règlement précise que les accords qui peuvent être annulés lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions énoncées dans l'accord demeurent des engagements.
Ils devront donc se voir appliquer un facteur de conversion.
Oui, c'est dans ce cadre que le BA précise dans cette consultation les différents facteurs pouvant limiter la capacité des banques à annuler les engagements révocables sans condition, qui se voient, comme vous le signalez justement, désormais appliquer un facteur de conversion de 10% versus 0% aujourd'hui. Ils vont donc générer une exigence de fonds propres supplémentaires à prendre en compte par les banques dans le calcul de leur ratio de solvabilité.
Cette consultation est ouverte jusqu'au 4 juin 2024 avec une audience publique prévue le 22 avril. Nous en avons terminé avec notre tour d'horizon de l'essentiel de l'actualité réglementaire bancaire. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de haute importance pour le secteur bancaire européen, la résilience cyber. Début janvier, la Banque Centrale Européenne a lancé son premier stress test cyber pour les 109 banques sous sa supervision directe. Ce test intervient dans un contexte de menaces cyber croissantes, exacerbées par la transformation numérique et les tensions géopolitiques. Pour approfondir cette discussion, nous avons à notre micro Faisal El-Belrami, associé cyber et privacy au sein de la BU Connected Tech de KPMG. Faisal pilote des missions de résilience opérationnelle numérique au sein des établissements financiers. Bonjour Faisal et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter de ce sujet important.
Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous.
Pourriez-vous nous décrire en quoi consiste le stress test cyber de la DCE et quels en sont les objectifs principaux ?
Comme vous l'avez mentionné, Kenza, dans un contexte marqué par une rapide transformation digitale et une menace cyber croissante, les institutions financières se retrouvent de plus en plus exposées. L'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, l'ENISA, signale une augmentation des incidents cyber, soulignant ainsi la nécessité pour les banques d'améliorer leur posture en matière de cybersécurité. C'est pour cela que la BCE a mis en place ce stress test, qui a pour but d'évaluer la capacité des banques à se remettre d'une cyberattaque qui viendrait perturber leurs opérations quotidiennes. L'objectif du test est d'évaluer notamment si elles sont capables d'identifier, prévenir, gérer et récupérer efficacement après un incident cyber, tout en maintenant l'accessibilité de leurs services financiers essentiels. Les banques devront être en mesure de signaler aux autorités l'impact et les conséquences d'un événement cyber sur leur organisation dans un délai très court, mais aussi d'expliquer précisément comment elles réagiraient face à une attaque. Je précise que cet exercice n'est pas un test d'intrusion classique. Il ne vise pas à tester les mesures préventives contre les cyberattaques, mais plutôt à simuler les capacités de récupération et à évaluer l'efficacité des mesures de réponse déployées par la banque.
Ces éléments de contexte étant posés, parlons maintenant de l'approche adoptée par la BCE pour sa mise en œuvre.
Alors, la BCE a choisi pour ce cyber stress test, qui est le premier de ce genre, de simuler une cyberattaque qui viserait l'intégrité des données d'un core banking system. La BCE a cependant prévu deux approches, et l'approche en fait dépend du caractère systémique ou pas de l'établissement. Une première approche simplifiée a eu lieu de janvier à février pour tous les établissements financiers participant au stress test. Ces banques ont dû répondre à un questionnaire, centaines de questions, portant notamment sur l'impact de l'attaque, sur leur métier critique et détaillant les mesures en place pour y faire face. Donc, il s'agit surtout d'étayer les réponses par des preuves adéquates avant de renvoyer le questionnaire au superviseur et d'apporter les précisions demandées au fur et à mesure que les éléments étaient fournis. La deuxième approche, plus approfondie, elle se déroule de mars à avril et ne concerne que les 28 banques les plus systémiques du MSU. Il s'agit cette fois de réaliser un test réel de la résilience du système d'information de ces banques, le tout supervisé sur site par la Banque centrale.
À l'heure où nous parlons, les tests sont donc en cours. Quels sont les principaux challenges à relever par les banques et surtout, quels conseils pouvez-vous leur prodiguer ?
Oui, cette phase va se terminer le 30 avril avec des interactions supplémentaires possibles en mai-juin. Mais clairement, le 30 juin 2024, ce sera la fin de l'exercice avec l'intégration des résultats et le partage des enseignements tirés surtout. S'agissant des défis, ils sont nombreux. Les banques doivent préparer une réponse à un scénario d'attaque complexe, remplir précisément et rapidement le questionnaire avec des preuves adéquates, mais aussi évaluer les impacts de l'attaque, notamment sur le plan économique, sur le plan de la réputation, entre autres. Assurer une coordination efficace au sein de l'établissement avec tous les prestataires externes critiques notamment, mais aussi les partenaires clés. Et enfin, pour certaines banques, évaluer leur capacité à récupérer leur système d'information après un incident cyber. En somme, réussir ce stress test exige collaboration étroite au sein de l'établissement, de planifier minutieusement les réponses aux superviseurs, une compréhension approfondie des stratégies de réponse et de récupération face aux cyberattaques, ainsi que des expertises variées et spécifiques comme la communication de crise, la quantification des impacts, qu'ils soient directs, mais surtout des impacts indirects. En bref, cette période très intense doit être gérée en mode projet, avec une PMO experte dédiée pour réussir à tenir les délais, vu la complexité de l'exercice et sa nouveauté.
Un exercice qui ne doit donc pas être sous-estimé. Mais voyons les choses positivement. Quels bénéfices les banques peuvent-elles tirer de ce stress test ?
Je viens d'insister sur les difficultés de l'exercice, mais il a aussi des vertus. Cela va donner l'opportunité aux banques d'affiner leur capacité à réagir et à se rétablir, surtout à la suite d'une cyberattaque, tout en consolidant leurs protocoles, notamment les protocoles de gestion d'incidents, les plans d'urgence et les plans de crise. En clair, cet exercice va contribuer à augmenter leur résilience opérationnelle.
Et côté BCE, quelles sont les attentes ?
La BCE s'attend à ce que les banques prouvent leur aptitude à poursuivre leurs opérations essentielles en dépit des perturbations, en mettant en œuvre efficacement leur plan d'urgence et en se rétablissant rapidement après un incident. La Banque centrale compte également utiliser les résultats de ce test pour peaufiner les évaluations prudentielles et élever les normes de sécurité au sein du secteur bancaire européen. Cela permettra d'orienter la supervision future et les régulations en matière de cybersécurité. L'exercice est une occasion pour les institutions financières de détecter et de rectifier les failles de sécurité, d'améliorer la coordination interne, également externe, ainsi que leurs approches en matière de gestion de crise. La BCE s'attend à ce que les banques comblent leurs lacunes éventuelles en matière de cyberattaque, qu'elles garantissent la continuité des opérations critiques en cas de perturbation majeure et qu'elles montrent une gestion d'incidents cyber efficace tout en étant capables d'évaluer les impacts directs et indirects de l'attaque.
Le cyberstress test de la BCE représente un pas important vers la préparation aux cyberattaques. Comment cet exercice s'intègre dans d'autres réglementations, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou européennes ?
Oui, c'est un pas important qui inscrit clairement la menace cyber dans le panorama des principaux risques que les banques doivent absolument maîtriser. Le cyberstress test de la BCE s'inscrit dans la continuité des réglementations françaises et européennes et vise à renforcer la résilience opérationnelle et la gestion des risques cyber au sein du secteur financier. Au premier rang, je citerai DORA ou Digital Operational Resilience Act, qui est une initiative majeure de l'Union européenne et qui, à partir de janvier 2025, nécessitera des banques de nouvelles exigences pour la gestion des risques liés aux TIC dans le secteur financier. DORA vise aussi à assurer que les entités financières, y compris les banques, sont préparées à résister et à se rétablir surtout des perturbations numériques, en élargissant la surveillance à des fournisseurs tiers de services, notamment des services TIC, ce qui est essentiel dans notre écosystème financier de plus en plus interconnecté. En parallèle, le framework cyber européen en cours de transposition en France promeut une méthode proactive pour tester la résilience cyber des entités financières à travers des tests offensifs qu'on appelle red teaming, construits sur la base de techniques d'attaque réelles observées sur le terrain. Ces tests conçus sur mesure pour chaque entité visent à mettre à l'épreuve les défenses et les capacités de réponse pour identifier les forces et les faiblesses du dispositif en simulant des attaques réelles, réalistes, sévères et plausibles. Cela va permettre à la banque d'améliorer significativement sa maturité cyber. Une autre réglementation importante, la directive européenne NIS 2, qui est la deuxième version de la première directive NIS, renforce significativement la cybersécurité en Europe. Ce texte couvre de nombreux opérateurs de services essentiels et leur impose des obligations de sécurité plus strictes et inclut les secteurs vitaux comme la banque.
Et en France, en matière de réglementation française ?
En France, la loi de programmation militaire ou LPM, la dernière date donc de 2024 de cette année et va s'étaler jusqu'en 2030, complète les efforts de l'Europe au niveau national en désignant des opérateurs d'importance vitale et en leur imposant des obligations juridiques spécifiques pour garantir le niveau de sécurité adéquat. Donc le cyberstress test de la BCE s'intègre dans un cadre réglementaire large et assez étoffé. Et cette approche coordonnée assure que les banques ne se contentent pas de répondre à certains critères spécifiques ou à certaines réglementations particulières, mais qu'elles adoptent une vision holistique et intégrée de la cybersécurité. Cet exercice devrait faciliter l'adhésion aux diverses normes réglementaires et prévenir les risques d'amende pour non-conformité.
Et comment KPMG accompagne les banques dans le cadre de cet exercice ?
Le stress test est toujours en cours. On pourra donc en tirer les enseignements d'ici quelques mois. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y aura un chantier à couvrir autour du suivi et de la remédiation. Pour cela, KPMG va accompagner les banques sur différents aspects, en organisant des ateliers de travail pour comprendre les constats identifiés lors du stress test. Nous allons aussi identifier, définir, prioriser, faire valider par le top management les réponses à apporter aux superviseurs, ainsi que les actions de remédiation à mettre en œuvre. Cela va nous conduire à définir une feuille de route avec les établissements, intégrant le budget, les ressources nécessaires, ainsi que les compétences et les priorités des banques. Il faudra à un moment donné réaliser des revues techniques, des nouvelles mesures implémentées pour s'assurer que les actions qui ont été mises en place remédient bien aux faiblesses identifiées lors du cyberstress test. Et aujourd'hui, nous accompagnons une douzaine de banques sur l'ensemble du stress test, mais certaines nous sollicitent seulement sur le volet suivi et remédiation.
Et en conclusion, Faisal, vous diriez ?
Si je devais conclure, je dirais que le cyberstress test de la BCE marque une évolution significative dans la manière dont le secteur financier et le secteur bancaire européen notamment abordent la cybersécurité et l'importance qu'il accorde désormais à ce sujet et à cette menace. Il incarne un passage vers une gestion des risques plus proactive que finalement réactive. Cette initiative du superviseur s'inscrit dans une démarche plus globale, coordonnée avec les réglementations clés que j'ai citées tout à l'heure. Tout cet arsenal doit permettre de renforcer la résilience opérationnelle des banques face à des cybermenaces omniprésentes. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que ces tests deviennent plus poussés, plus fréquents, adaptés toujours aux nouvelles réalités cyber et qu'ils encouragent une culture de cybersécurité intégrée à tous les niveaux des établissements bancaires. En somme, ces efforts collectifs visent à établir un secteur bancaire plus sûr, capable de résister et de se rétablir rapidement suite à une cyberattaque. Cela va indéniablement renforcer la stabilité financière et économique de l'Europe dans un paysage numérique soumis à des menaces toujours plus sophistiqués.
Un grand merci à vous pour votre éclairage sur ce sujet d'une grande actualité. Et je précise que KPMG réalise un benchmark européen auquel les banques peuvent participer pour partager leur niveau de maturité et leurs bonnes pratiques. N'hésitez pas à contacter Faisal El Belrami si vous souhaitez y participer. Dernière rubrique de cette émission, la chronique dédiée au sujet ESG présentée par Sylvie Miette. Bonjour Sylvie.
Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte porte sur la feuille de route sur le climat et la nature publiée le 30 janvier dernier par la Banque Centrale Européenne pour la période 2024-2025. Dans cette feuille de route, la BCE détaille ses travaux sur le changement climatique qui se déploieront autour de trois domaines, principalement les conséquences et les risques pour le système financier de la transition écologique de l'économie, en particulier les coûts de transition et les besoins d'investissement qui y sont associés, les répercussions physiques de plus en plus grandes du changement climatique et les effets des mesures d'adaptation à la hausse des températures sur l'économie, et les risques découlant de la dégradation de la nature et de sa biodiversité et la manière dont ils interagissent avec les risques liés au climat. L'idée étant, pour la BCE, de voir en quoi l'ensemble de ces risques pourraient affecter ses travaux en raison de leur incidence sur l'économie et le système financier. Après avoir dressé le bilan des mesures prises en faveur du climat depuis le lancement de son programme en 2022 et à la suite d'un ajustement de son plan de travail face à la révolution du contexte, mais aussi grâce à une meilleure disponibilité des données et une amélioration des méthodologies, la BCE annonce plusieurs nouvelles mesures dans cette feuille de route climat à horizon 2024-2025. Tout d'abord, elle va intensifier ses travaux sur les effets du financement de la transition, les besoins en investissement vert, les plans de transition et la manière dont la transition écologique touche l'économie de manière générale, notamment le travail, la productivité et la croissance. La BCE souhaite également analyser l'incidence des événements météorologiques extrêmes sur l'inflation et le système financier et leur intégration dans les scénarios climatiques et ses projections macroéconomiques. La Banque centrale entend également mieux comprendre le lien entre la dégradation de la nature, de la biodiversité et le changement climatique ainsi que les implications économiques et financières qui en découlent. Dans cette feuille de route, la BCE annonce également le lancement de son 8e programme de gestion environnementale dans le but de soutenir la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions de carbone à horizon 2030. Avec l'ensemble de l'eurosystème, elle appliquera à la fois des principes d'éco-conception lors de la future émission de billets en euros et elle prendra en considération l'empreinte écologique dans la conception d'un euro numérique qui est actuellement en préparation. La Banque Centrale Européenne donne ici l'exemple et encourage les banques à prendre des mesures concrètes pour réduire leurs émissions de carbone. C'est une voie à suivre.
Clôturons cette émission avec les principales publications KPMG parues depuis notre dernière émission, à savoir notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 décembre 2023 et notre traditionnel ActuBank du mois de février. Toutes ces publications ont été adressées à tous nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Un grand merci aux trois experts qui se sont exprimés aujourd'hui et un grand merci à nos auditeurs pour leur attention et leur fidélité. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous en mai prochain pour une nouvelle édition de Fréquence Banque. Très bonne journée à tous.
KPMG, Fréquence Banque.